Bienvenue à Objectif numérique, 13e épisode. Et dans cet épisode, nous répondons comme à l'habitude à vos questions. Nous allons présenter les résultats de notre tout premier sondage effectué sur le blog. Nous allons vous présenter par la même occasion un deuxième sondage. Et nous allons aborder d'autres sujets comme pourquoi les objectifs seraient-ils plus importants que les boîtiers ou vice-versa. On va débattre un petit peu là-dessus. Et ensuite de ça, on va vous présenter un projet de notre invité. Alors, sans plus tarder, l'équipe habituelle est présente comme d'habitude. Bonsoir messieurs, François.
Salut.
Christian.
Salut.
Et on a un invité, Éric Santerre, qui va venir nous présenter un petit projet de tutoriel vidéo sur la photo qui a commencé il y a quelques semaines, presque,
ouais, quelques semaines,
presque hein? Quelques mois.
Non, ben, un mois et demi, mettons, là, quelque chose comme ça.
OK. Mais ça va vite. Je pense que tu y as pris goût à faire ces petits vidéos-là.
Ben, en fait, je fais des petites vidéos comme ça pour expliquer à du monde. Je vois je vois sur un groupe sur Facebook où est-ce qu'il y a des amateurs de photos. Puis c'est eux autres qui, dans le fond, qui m'inspirent à faire une capsule sur un sujet X parce que ils ont de la difficulté avec tel ou tel problème. Puis là, mm-hmm. Ben là, je dis, ah ben là, moi, il me semble que je pourrais faire ça. Fait que, au lieu de leur répondre directement dans Facebook, ben là, je fais une petite capsule, puis là, ça peut les aider comme ça.
Parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire de la photo au tout début, là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la photo?
Ben, je pense que ça ressemble à plusieurs ici. C'est, ouais, j'ai eu une petite fille, puis là, c'était le moment de commencer. Donc, c'était en 2003, donc c'est ça. Puis, ben, c'est ça, j'ai commencé en 2003 avec un petit appareil Sony, un petit compact, puis j'ai commencé comme ça. C'était bien, c'était intéressant, puis j'avais une espèce de mentor sur IRC qui m'aidait à améliorer. IRC. Ouais, IRC, là, ça c'est...
La vieillerie.
Oui, mais c'est génial aussi pour partager. Puis il y avait quelqu'un qui était un ancien photographe, puis là, il était là, puis là, il me donnait des conseils, puis donc ça m'a aidé à me développer un peu comme ça, puis là, en 2006, un moment donné, bam, ça a donné que mon appareil est tombé par terre. Fait que là, j'ai commencé les DSLR en 2006, puis c'est ça. Fait que après ça, j'ai continué, puis j'ai la piqûre.
Parfait. Puis là, maintenant, t'es passé aussi du côté Canon, comme nous tous. On cherche encore des invités qui ont un Nikon, hein, mais malheureusement...
Juste un, je pense, jusqu'à date.
Il y en a eu un.
Yeah. Hey, un invité.
Ouais.
Ça veut dire que... Hein, ouais. C'est ça que ça veut dire.
L'invitation est lancée. Non, mais manifestez-vous, propriétaires de Nikon qui sont dans la région de Montréal, au Québec, si vous voulez passer à l'émission.
Après, c'est que je pense à d'autres potentiels invités, puis à ma connaissance, ils sont tous Canon, eux mm-hmm. autres aussi. Fait que vraiment, là, c'est
un signe.
Donc, puis c'est ça en ce moment. T'as quoi comme appareil?
J'ai un 50D.
Un 50D,
depuis
okay.
2009, je pense. Fait que là, je suis dû. Là, à toutes les 3 ans, je change d'appareil. Mm-hmm. Non, non, c'est pas...
Change
pas...
ça vite, là.
Ouais, 2012 est terminé. Hey,
c'est ça.
3 ans.
Non, mais sérieusement, par contre, j'utilise encore mon 50D, puis il fait parfaitement l'affaire, puis... j'en découvre encore, tu sais, mm-hmm. vraiment plus des détails, là, c'est sûr, mais encore, je dis, OK, ben, il est pas pire encore, puis je vois pas la raison encore qui m'amènerait à changer vers un autre appareil pour moi étant amateur, là,
tu sais. Mm-hmm.
Pas besoin de changer dans ce temps-là.
Exactement.
On change pas pour changer, il faut changer parce qu'on a un besoin différent. Ça donne rien de changer. Dieu sait que ça coûte assez cher de toute façon. Là.
Mm-hmm. Mm.
J'explique ça à ma blonde à chaque fois qu'on va magasiner, mais non. Non.
C'est pas la même chose, je crois.
Bon, excellent. Alors, on va passer à la question d'un auditeur, Philippe Gélina, qui nous demande d'expliquer les différentes mesures de lumière sur un appareil photo. Donc, on voit souvent les modes multi, spot, évaluative, tout ça. Donc, Christian va nous expliquer à quoi ça sert. C'est quoi la différence entre ces différents modes de mesure de lumière?
Dans le fond, il y en a trois Je pense qu'il y en a quelques caméras qui en ont plus que trois, là, mais les trois importants, les trois qu'on utilise, qui sont le plus utilisés, les plus fréquents. Le premier qui est le mode, je vous préviens tout de suite, je vais le dire en anglais, pour la simple et unique raison que, bon, c'est plus quelque chose que moi, j'avoue que ma caméra est en anglais, j'utilise l'anglais, etc. Je vais quand même essayer de traduire approximativement, là, mais je suis plus anglais là-dessus.
Mais curiosité, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont l'appareil est en français dans les menus ou on est tous en anglais?
Je suis très étonnant parce que d'habitude, toutes mes choses sont en français.
OK.
Tu sais, mon iPhone est en français, mon macOS est en français, mais là-dessus, je suis comme pas capable. C'est étrange, là, je sais pas pourquoi, mais ça marche pas. Je me cherche trop dans les menus, sinon il y a des affaires que je trouve pas.
Mm-hmm. Moi, c'est en anglais aussi, parce que dans mon travail, on utilise beaucoup de termes anglais.
Oui, oui, c'est vrai.
En vidéo, fait ça allait de soi pour moi.
Oui, j'ai pas l'air qu'il... sûr, ça doit être en anglais.
Non, ben, me semble qu'il est en français.
Ah oui,
mais,
OK.
Mais, tu sais, des fois, il y a des affaires, tu sais, en anglais, en français, c'est... Ouais, on s'en rend même plus compte, là.
Le pire, c'est que t'as raison, parce que moi aussi, je suis comme ça. Il y a des choses où c'est quasiment dans le bilingue, parce que pour moi, j'ai comme pas de connaissance quasiment que c'est en français ou en anglais. Quelqu'un me dit « Ah, c'est en anglais. » Ah.
Oui, on s'en rend plus compte à un moment donné.
Non, c'est sûr.
Bon, excuse-moi, Christian.
Non, il n'y a pas de problème. Ben, non, le pire, c'est une question pertinente, j'avoue. Donc, c'est ça. Il y a le evaluative metering, ou comment qu'on pourrait dire...
La lecture évaluative.
Ouais,
la mesure,
c'est bon.
Mesure évaluative,
ouais. Exactement. Je disais que dans le cas de Nikon, parfois c'est évaluative ou matrix metering. Je sais pas, comme je dis, j'ai pas beaucoup utilisé Nikon, mais c'est la même chose. C'est tout le même mode. C'est le mode par défaut. C'est le mode qu'il va évaluer tout ce qu'il y a dans leur viseur, le viewfinder dans lequel vous regardez. Il va regarder toute l'image au complet, puis il va évaluer c'est quoi la luminosité à partir de ça. Donc,
il fait une moyenne,
c'est probablement, bon, c'est pour une scène normale, quelque chose qui n'a rien de spécial, ça fait le travail, on n'a pas besoin de bien plus que ça. Le deuxième, qui est le partial metering ou le spot metering, dans ce cas-là, moi j'avoue que c'est souvent celui-là que j'utilise personnellement. Mm-hmm. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le milieu de la photo, et c'est à cet endroit-là que ça va déterminer quelle est la luminosité.
Je crois que c'est environ 4% au centre.
Ouais, quelque chose dans ce style-là, exactement.
Okay. Ça évite d'avoir le avec le rétroéclairage, là, d'avoir...
C'est ça, exactement ça. Si on a... C'est que dans le fond, ça va être vraiment le sujet qui va être illuminé en tant que tel. Comme tu dis, le rétroéclairage, ben ça fait que si, mettons, on a quelqu'un... Pour ceux qui connaissent pas vraiment le rétroéclairage, c'est, mettons, on a quelqu'un en avant-plan, puis on a le soleil en arrière. Ce qui est souvent le problème, c'est que notre fond, avec le premier mode, va être probablement plus éclairé que l'avant. Avec le spot, ben, on va s'assurer que ce soit vraiment notre personne en avant qui va être bien éclairée à ce moment-là. Et évidemment, ben, il y a le troisième qui est Center Weight Average Metering. Dans le fond, ce qu'il fait, lui, c'est un peu un hybride entre les deux. Ce qui est à dire qu'il va prendre le milieu de la photo et il va quand même évaluer un peu les côtés. Techniquement, bon, on pourrait penser que c'est probablement ce qu'il y a de meilleur parce que justement, il fait une moyenne des deux, mais regarde, c'est jamais parfait parce que tu vas te ramasser probablement un peu entre les deux dans le sens où ça peut être bon avec un sujet au milieu, mais il évaluera pas tout le reste. Donc, on peut se ramasser avec des choses qui vont être surexposées parce que justement, il évalue pas vraiment tout ce qui est le reste. Il évalue un peu, mais...
Où le sujet va être mieux exposé que dans le mode par défaut, mais pas suffisamment.
C'est ça, exactement.
Dans des situations, justement, où un mode est plus recommandé qu'un autre aussi, j'imagine.
Ben, exemple, moi, comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de photos. J'aime ça, la photo pour des spectacles, etc. Spot, dans ce cas-là, est pas mal essentiel.
Ah, ouais.
T'as pas le choix parce que c'est la seule façon que tu peux avoir ton sujet qui est bien éclairé. Comme je disais, bon, encore une fois, le spot pour quoi que ce soit qui est rétroéclairé, c'est essentiel aussi. Sinon, honnêtement, la majorité du temps, vous pouvez y aller avec les autres. Ça devrait pas changer grand-chose. Je vais vous mettre... d'ailleurs, ça pourrait être un site qui est intéressant pour le monde. C'est Digital Photography. C'est Digital Photography School. Mm-hmm. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce site-là. Puis c'est, on voit, entre autres, les trois modes qui ont été pris pour le même sujet, vous allez pouvoir voir un petit peu, vous allez voir que, en réalité, la différence n'est pas nécessairement si grande que ça. Parce que, oubliez pas que, surtout si, exemple, vous y allez manuel comme moi, ben, on peut jouer ensuite après. Ça nous donne une idée de où est-ce qu'on devrait l'arranger, mais après ça, rien qui t'empêche de descendre un peu la vitesse, monter la vitesse, jouer avec l'ouverture. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est toi qui vas avoir une meilleure idée. Ça revient toujours au même cas quand je disais que quand vous le faites en mode manuel, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce que vous faites. C'est commode à avoir parce que ça donne une bonne idée en partant, mais comme n'importe quoi, ben ça reste de l'automatisme. L'automatisme, c'est pas parfait. Ça fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Fiez-vous pas juste à ça, mais c'est un bon départ pour le faire. Mm-hmm. Fait que, c'est comme on disait, ben c'est dans le fond, ça mesure votre luminosité, ben c'est ce qu'on a déjà parlé, le pose mic, là, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez placer votre curseur sur votre pose mic, là, qui est ou en bas dans les Canon, ou sur les côtés, ou en haut, en tout cas, il y a plusieurs endroits, là, ça dépend des caméras. Mm-hmm. Mais c'est ça, gênez-vous pas, fiez-vous pas complètement au pose mic, là. Gênez-vous pas de le mettre, là, ça m'arrive fréquemment. Une des dernières caméras que j'ai essayées, la Olympus EPL3, une des choses que j'ai remarqué, c'est que systématiquement, les photos étaient toujours sous-exposées, à mon opinion. Okay. Fait que, en partant, moi j'ai joué un peu, il y a des settings où ce qu'on peut lui dire tout de suite en partant, ben moi je veux que tu me surexposes toujours mes photos parce qu'ils sont trop sous-exposés. Puis à ce moment-là, ben lui, à son opinion, c'était correct, mais à mon œil, ça l'était pas. Mm-hmm. Fait que tout de suite en partant, quand j'ai commencé à jouer avec ça, ben là, je me suis rendu compte que les photos étaient beaucoup plus comme moi je le désirais. Fait que c'est un guide, on l'utilise comme on peut. Mais jouez comme vous voulez aussi avec. Là. Dans les modes automatiques, ben, bien entendu, c'est sûr que vous n'avez pas nécessairement le choix là, parce que c'est lui qui utilise pas mal tout. Là.
Ouais, ouais.
Mais bon, d'ailleurs, je suis même pas sûr si dans les modes automatiques, on peut changer le metering. Je crois que non. Je pense qu'il le fait automatique lui aussi. C'est ouais, une bonne c'est... question.
Ça doit même dépendre des caméras. Ouais. Là, des
ça dépend des caméras, ouais. Ça dépend de bien des facteurs. Mais
ouais, ouais.
En tout cas, fait, dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est, comme je disais, le partial, c'est pour une scène au complet, le spot pour un point, puis l'autre, en principe, ça devrait être un point et un petit peu les côtés. Testez-les, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Moi, je vous dis, ma caméra, je ne la mets qu'en spot, puis j'y vais avec ça. Mm-hmm. Fait que je sais pas pour vous autres qu'est-ce
par
qu'il
contre,
y en est.
Par contre, si vous expérimentez, n'oubliez pas de le remettre aux paramètres avec lesquels vous êtes habitué de photographier, parce que sinon, toutes vos photos vont être soit surexposées, sous-exposées, vous comprendrez pas pourquoi. Ça m'est arrivé à quelques reprises.
Je sais pas, dans votre cas, qu'est-ce que vous utilisez, vous?
Eric?
Ben, moi, c'est surtout le spot, effectivement. Mais j'avais une petite question. Je me demandais, pour la mesure, moi, quand je prends des photos, je pointe sur mon sujet, puis je prends la mesure. Ben, je pèse à moitié sur le déclencheur pour faire le focus. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il fait la mesure ou c'est quand je déclenche?
Par contre, sur certains appareils comme le 50D, le 60D, il y a un petit bouton qui est le calcul d'exposition. Donc, tu pourrais calculer ton exposition en recadrant ailleurs.
Okay, oui,
puis
oui,
ensuite faire ton focus, puis prendre ta photo selon une autre exposition que celle où ton sujet se trouve.
Ouais, OK.
Donc, on peut tricher un peu avec ça aussi, là, mais ça m'arrive de l'utiliser, surtout parce que moi, je suis rarement en spot, je suis plus souvent en mesure évaluative. Donc, quand je vois que ça ne donne pas ce que je veux, je vais recadrer ailleurs où l'éclairage est différent, ça va aller plus vite. Je prends ma mesure là, puis ensuite, je fais mon focus, puis comme ça, l'exposition est un peu différente.
OK.
Même chose, moi je fais spot au même moment que ça fait le focus. C'est là que je veux généralement que ma lumière soit aussi.
Ouais.
Puis si c'est pas le cas, je suis toujours en manuel. Mm-hmm. Fait que là je corrige ma deuxième photo. Si je suis en mode, j'ai pas le temps de focuser ou d'être en mode manuel, je vais me mettre tout de suite en mode semi-automatique
mm-hmm.
pour être sûr de pas manquer ma photo. Puis après, en post-production, je vais aller faire de la retouche. Mais sur le coup, quand je sais que j'ai le temps de prendre une photo de test, mm-hmm. c'est en mode manuel, puis là je le vois tout de suite si je sous-ex ou sur-ex avec l'histogramme.
Moi je dirais que à part le mode manuel, c'est priorité à l'ouverture aussi que j'utilise beaucoup, parce que sinon, à part ça, c'est les deux seuls modes que j'utilise.
C'est ça. Moi aussi, généralement, je dirais même 90%, je suis en priorité ouverture. Donc, mais ça dépend toujours des situations. Moi, je prends plus de photos à l'intérieur, souvent dans des démonstrations de produits, des trucs comme ça, ou dans des fêtes de famille. Donc, tu as besoin de l'ouverture maximale ou de gérer l'ouverture. Donc, c'est plus comme ça que moi, je travaille. Ben, en fait, que je m'amuse.
Ouais.
C'est pas encore un travail, mais c'est ça. Donc, bon, ça fait pas mal le tour du sujet.
En effet.
Excellent. Et on va passer maintenant à... Ah oui, on a un petit sujet intéressant. Avant de donner les résultats du sondage, on va passer tout de suite à notre appareil favori pour 2012. C'est une idée d'Éric, d'ailleurs. Ben, en fait, c'est pas l'idée directe d'Éric, mais ça m'a inspiré ça. Éric, en fait, on va en reparler un peu plus tard, mais nous avait demandé quel était notre appareil préféré ou qu'est-ce qu'on considérait le meilleur appareil du moment. Et puis, notre vision pour les années à venir. Ça, on va en reparler au prochain épisode. Mais parce que mon petit doigt me dit qu'Éric va revenir. Mais pour cet épisode-ci, on va vous présenter notre appareil favori pour 2012, donc qui est sorti en 2012. Et puis peut-être un appareil qui est annoncé aussi pour 2013 ou qu'on n'a pas eu la chance d'essayer en 2012 et qu'on aimerait essayer en 2013. Donc, ben tiens, on va laisser la parole à François en premier.
C'est moi qui...
c'est toi qui ouvre le bal.
La roulette est tombée.
Le cobaye.
Ben moi, en fait, veux pas, je travaille en vidéo, fait que je me suis dit, moi, il y a une caméra qui m'a marqué en 2012, puis c'est la GoPro Hero 3. En fait, je l'ai même pas encore essayé, la caméra, mais juste à voir les statistiques, ça m'interpelle. Ouais,
voir les images qu'on voit un peu partout sur
la démo qui roule en ce moment.
Incroyable.
C'est de toute beauté. Évidemment, il y a beaucoup de techniques en arrière de ça. Il n'y a pas juste une petite caméra sur un casque.
Oh, tu me déçois.
Il n'y a pas seulement qu'une caméra non plus dans la démo.
Oh boy,
mais au moins, on les voit,
certaines
les autres, par exemple.
12, 15, une à côté de l'autre pour faire une espèce d'effet de mouvement autour de la personne. Mais bon, je vais vous dire pourquoi je vais faire ça vite quand même, parce que c'est on est plusieurs à parler de nos caméras, nos coups de cœur. Elle fait du 1080p en 60 frames secondes, ce qui permet de faire des maudits beaux ralentis en Full HD. Si on veut faire du plus beau ralenti encore, c'est possible. On peut aller jusqu'à 120 frames par seconde à 720p.
120 images par seconde.
120 en 720p qui est,
wow,
qui
c'est est plus très respectable.
C'est,
là,
c'est très, très respectable. Fait, c'est en masse. Là.
Un vidéo de justement sportif ou de famille ou n'importe quoi, là, règle générale, 720p sur un écran comme on a en ce moment, là,
ah,
sur
ouais,
un
ouais.
téléviseur, ça fait le boulot. Là.
Tout à fait. Ça... Encore plus spectaculaire, ça filme en 2.7K, progressif 30 images secondes. 2.7K, là on passe à de la très très haute résolution HD. C'est quelque chose qui est déjà prêt pour quelque chose qu'on n'a pas encore à la maison.
Ouais.
Il n'y a même pas de moniteur, je pense. Pas d'écran télé à la maison, ou à peine.
Mais non, il y a le nouveau MacBook d'Apple, peut-être, avec le Retina Display.
Ah,
là, le
peut-être,
Retina Display.
Ouais.
Peut-être. Il doit se rapprocher de ça, mais peut-être même pas encore.
Mais j'ose pas, en montage, là, ça prend beaucoup de processeurs.
Oui, ça prend une bête là, pour...
Et elle fait aussi du 4K. Ouais. Elle est capable de faire du 4K à 15 images secondes. Ce qui est... ça va être le fun de voir la qualité d'image, mais bon, on ne fait pas un film en 15 images secondes, évidemment.
Non, c'est un film, mais...
Si on veut aller dans le ralenti, elle est capable d'aller à 240 images secondes, cette caméra-là, en mode WVGA, ce qui veut dire 800 par 480. Fait que pour du web...
C'est le format DVD.
C'est le format DVD, exactement.
Donc,
c'est en masse pour faire de quoi de super beau pour le web. Si on veut pas faire un vrai film, une projection sur écran, parce que... Bon, ben, il y en a qui ont ça comme but avec une Hero 3.
Mais la Hero 3 qui fait ça, c'est la Black Edition, l'édition noire.
Oui,
parce que les autres,
j'ai oublié de mentionner
ça.
Que c'est la Black Edition. Les autres modèles, elle fait pas tout ce que je viens de nommer, mais presque. On s'entend que pour quelques... Je pense que c'est une centaine de dollars de plus pour la Hero 3. Black Edition, ça vaut le coup.
On parle quoi, de 400? Je pense qu'il y a 400$.
400$,
ouais, c'est pas cher là, pour ceux qui veulent faire justement de la vidéo haute qualité ou du ralenti.
Puis côté photo, elle n'est pas en reste parce que elle fait des photos de 12 mégapixels.
Okay.
Puis elle est capable d'aller faire 30 images consécutives à 12.
En rafale?
Les 30 images se font en, je crois, une dizaine de secondes, quelque chose comme ça.
Okay.
Pas mal.
Donc, c'est parfait pour capter un moment particulier ou tout ça. Elle a plusieurs modes là, que je n'aimerais pas, mais ça, c'est les grosses lignes de cette caméra-là, ce qu'elle peut faire. Elle a le Wi-Fi built-in ou le Wi-Fi intégré. Donc, c'est à l'image des nouvelles petites caméras compactes, puis tout, on peut vraiment servir de ça pour monitorer au lieu d'utiliser un moniteur dessus. On peut voir par Wi-Fi sur son laptop. Je dis à l'image des petites caméras, c'est pas tout à fait ça, là, mais on peut monitorer la caméra par un laptop.
Parfait.
Il y a une télécommande aussi.
Mm-hmm, c'est vrai.
C'est très pratique, ça, parce que des fois, on installe ça dans des endroits difficiles d'accès ou sur quelqu'un, sur son vélo.
Ou sur son casque.
Ou sur son
comment
casque.
Comment aller changer les paramètres.
Avec la connectivité Wi-Fi puis le signal qu'on reçoit, on peut la déclencher à distance. Et mm-hmm. C'est vraiment une caméra qui est super. Il y a d'autres trucs que je pourrais dire qu'elle est deux fois plus rapide que le modèle précédent. Elle a une meilleure, moins de distorsion que l'autre modèle d'avant aussi. On réussit à mettre 6 éléments.
Oui, parce que c'est un très grand angle, hein, c'est
attends,
ça?
Attends, on peut choisir.
Ah.
Dans la Black Edition, les autres, je ne sais pas. J'ai pas fait la comparaison, puisque moi, c'est juste la Black Edition qui m'intéresse.
Moi aussi, de mon avis personnel, quelqu'un qui s'achète une GoPro Hero 3, ça prend la Black Edition. Sinon, pour sauver 100$, vous allez avoir la moitié des capacités.
Ben, ça dépend ce qu'on veut faire.
Ouais,
si c'est juste pour se filmer en train de faire un peu de sport, puis on n'a pas nécessairement besoin du super
ou
mode
si
ralenti.
C'est vraiment...
Et on a peur de la briser.
Oui, c'est ça. Tellement extrême que même son côté robuste risque de ne pas survivre, peut-être. Là.
Ça se peut. J'en ai brisé une, moi. C'est, en fait, pas moi, mais sur un tournage, on a brisé une voiture qui est passée dessus.
Ah, ben là,
un petit détail.
Ouais. Fait que non, on peut choisir le mode ultra-wide, médium, puis... narrow, c'est-à-dire plus resserré.
Étroit, oui.
Ouais, plus étroit. Donc, on a quand même un bon choix d'optique. Et puis, ils ont changé le petit verre rond pour un verre carré. Ça réduit quelques... je sais pas comment appeler ça en français.
Déformation.
Les flares. C'est-à-dire les réflexions de lumière qui viennent un peu changer la colométrie de la photo.
Okay.
Donc, ça réduit ça. Étant donné que c'est droit, ben, ça fait moins de réfraction.
Ah,
je pense
que
c'est ça.
Ouais, ouais.
Fait qu'en gros, c'est la caméra qui m'a frappé pour 2012 et j'en aurai une dans quelques semaines, vous pouvez me croire.
Et pour 2013?
Pour 2013, moi, ça sera pas dans le très original, ça va être la 7D Mark II qui est pas encore sorti, mais
qui n'est pas encore annoncé non plus. Ce sont que des rumeurs.
T'as absolument raison. D'ailleurs, sur le site de canonrumors.com, voici ce que... Bon, ce qui se dit, puis c'est vraiment pas quelque chose de sérieux comme rumeur, mais je vais quand même vous le dire parce que ça pourrait ressembler à ça.
Mm-hmm.
On parlerait de 24.2 mégapixels au lieu de 18 pour la 7D présentement, à 10.2 frames par seconde pour le mode Rafale au lieu de 8. Il y aurait un processeur de Dual Digic 5.
Donc deux processeurs deux processeurs finalement.
Exactement, bon. Ensuite, on pourrait utiliser... deux types de cartes mémoire, probablement SD et Compact Flash.
Ça serait bien.
La rumeur le dit pas.
Ça serait très bien.
Oui. Un nouveau design ergonomique. Bon, ça va-tu être mieux? Moi, déjà, ma 7D en main, je l'adore.
Moi aussi.
Attention, une nouvelle sorte de batterie. Ah! Vive la...
Ça,
ils sont bons là-dedans.
Ouais,
pour soutirer de l'argent, c'est pas possible. C'est sûrement quand même du lithium en bout de ligne.
Oui. Ben, ils vont dire, ça prend 100, 200 clichés de plus. Ça te prend une deuxième pile.
Moi, je suis déjà honnêtement super satisfait de
du nombre.
Moi, c'est quoi? Je fais à peu près. Moi, j'ai comme je disais, la poignée avec les deux batteries.
En plus.
Et en tout et partout, là, je dois faire avec les deux batteries 1500 photos. Mm-hmm. Fait que j'ai pas besoin de plus que ça, là, sincèrement.
Même
là.
Avec mon Rebel, mon 450D. Je faisais autour de 500 photos avec une charge. C'est le double de n'importe quel appareil compact. Donc, avant de faire 500 photos dans une même journée où on peut pas recharger, là, sinon on est en studio ou peu importe, là, comme Christian qui fait 3000 photos en une journée de studio. Là,
non, c'est sûr qu'on s'entend que c'est pas un point absolument important, comme par exemple avec un téléphone cellulaire aujourd'hui, un smartphone. Ça se vide rapidement de batterie là-dessus, mais bon.
Ton
appareil photo, on n'est pas encore...
Samsung Galaxy S3.
Oui, je suis un petit peu déçu de ce côté-là, mais au moins, je peux changer la batterie contrairement à d'autres téléphones que je n'aimerais pas, mais que vous savez de je parle.
Oui. Mais tout ça, par contre, la 7D, ça va rester probablement... Ben, beaucoup la rumeur disait que ça allait être un plein capteur, mais là, comme le 6D est arrivé, je doute que ce soit un plein capteur. D'après moi, ça va être un capteur rogné.
Mm-hmm.
Tu peux pas mettre un plein capteur, tu vas aller... Tu vas aller manger le marché de la 5D à ce moment-là.
Mais de la 6D, en fait.
Et de la 6 qui vient de sortir.
Qui vient juste de sortir.
Okay.
Je sais pas, regarde. Moi, je suis sceptique, je veux dire, avec la 7D, parce que moi, je m'attendais à ce que la 7D arrive pour prendre la place de la 6D, mais là, comme la 6D est arrivée, pas sûr.
Ben, on verra.
Pas sûr.
Fait que tout ça en février, selon, ouais, encore une fois, détails. Les rumeurs, ça, on pourrait avoir plus de détails en février.
Ouais, je veux pas te décourager, ça fait un an qu'ils disent ça. Mais on verra bien.
Ah, ben.
Parce que moi, j'ai vu il y a un an, l'année passée, en novembre passé, qu'ils annonçaient des specs, puis ça ressemblait pas mal déjà à ça. On va voir, là, okay. Mais on verra bien.
Ouais, ouais.
Et toi, Christian, pour en 2012, quel a été ton appareil préféré?
Sûr que ça va surprendre absolument personne ici, mais c'est la Fujifilm X100. Moi, mais... je suis toujours en amour avec cette caméra-là, vraiment. Puis là, ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a la XE1, qui est, dans le fond, c'est à peu près le même appareil, sauf qu'on peut mettre un objectif sur celui-là. On peut le remplacer d'objectif. Oui. Honnêtement, je dirais que ça a l'air presque aussi intéressant, sauf que le désavantage étant que l'objectif étant beaucoup plus gros. Par contre, il est très bon. On parle d'un objectif de un 18-55, là, comme il y a sur toutes les DSLR, sauf que une ouverture de 2.4 à 4. Oui, 2.8 à 4. Ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, etc. La prise en main est bonne, tout ça. Mais l'autre, l'avantage, c'est que, et prenez ça avec un grain de sel, ça se glisse presque dans une poche. Ben, je l'ai fait. Je l'ai traîné dans ma poche, puis c'était quand même pas si mal. C'était pas, je dirais pas la chose la plus facile à traîner, mais ça se faisait. Moi, en tout cas, c'est vraiment là, je tombe en amour avec cette caméra-là. J'aimerais vraiment ça, là, peut-être dans un an ou deux, là, quand le prix va avoir descendu, etc., m'en trouver une usagée ou quelque chose de même, parce que j'ai pas 1200 places à mettre là-dessus, là.
Pis... Ouais, mais la X1 est moins chère.
Elle est moins chère, oui.
Sinon, ben, ça va faire d'ailleurs, descendre c'est... le prix de la X100 ben, autour de 700 croire, $.
Je peux pas croire.
C'est ce que, c'est ce que j'ai lu là, sur les internets. Oui. Le prix devrait baisser autour de 750 $ là, pour la X100.
On espère, parce qu'en tout cas, je trouve que là, elle perd justement un peu de sa... La seule chose que la XE1 a pas que l'autre a, qui est le viseur hybride que je parlais, lui, elle l'a pas. Okay. Fait que, mais bon... Personnellement, moi, comme je l'avais dit, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé énormément, fait que c'est pas une grosse perte, là, mais bon, ça dépend des goûts.
Là, c'est ça. Là, on en a un aperçu, mais on va la tester là, au début de 2013 pour un épisode futur. Elle va revenir faire son tour, mais là, elle est très en demande.
C'est un bel appareil, franchement. Ben, elle a le look rétro aussi. Là. Là-dessus, franchement, de pas mal tous les appareils que j'ai vus, Fuji, là, ces temps-ci, là, ils sont forts. Sur leur design, ils sont très, très forts.
Ouais.
Puis, ben, pour mon appareil futur, ben, il y a pas longtemps, j'en ai testé un autre, Sony RX100. Mais ils ont un modèle un petit peu plus haut de gamme qui est le RX1. Ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup mettre la main là-dessus.
Okay.
C'est une grosseur, à peu près la même grosseur que la X100, la Fujifilm X100. Fait que c'est pas vraiment plus petit. L'objectif est un petit peu plus gros, mais, et c'est là le point le plus intéressant, c'est un plein capteur dans cet appareil-là.
OK.
Ça, c'est très intéressant. Un objectif de 35 mm, F2, plein capteur. Oh, je serais très, très, très intéressé à mettre la main là-dessus.
Ouais.
Je pense que c'est... De ce que je vois là, sur Internet, parce qu'elle n'est pas encore sortie, on disait quand même que c'est ça, c'est un objectif Carl Weiss. Ça devrait être quand même pas si mal aussi. 24 mégapixels, comme je disais, la grosseur à peu près la même grosseur que la X100, à part l'objectif un peu plus gros. Alors, évidemment, je vous apprendrai rien. Un autre énorme défaut, le prix.
Ah oui, hein?
2 800 $.
Oui, mais à cause du plein capteur.
Oui, c'est une niche assez...
C'est une niche assez limitée.
Puis je voulais juste te reprendre avec un auditeur nous écrive, là, c'est Carl Zeiss.
Carl Zeiss, excusez-moi, c'est Carl Zeiss. Mais donc, c'est ça. En tout cas, je trouve ça intéressant, par contre, de pouvoir mettre un plein capteur là-dedans. Ben, ça fait penser un petit peu au Leica. Que ça avec, j'irais pas ça à un moment donné mettre les mains là-dessus, mais bon. Ça...
Malheureusement, j'ai pas de contact chez les gars.
Non, ça serait. Faudrait qu'on essaie de trouver ça pour le fun. Ça serait le fun d'avoir ça dans les mains.
Petit défi pour 2013.
Ouais. S'il y a du monde qui nous écoute, qui ont des contacts, gênez-vous pas. Hein. On serait tout apte à tester ça, définitivement. Fait qu'en tout cas, non, en tout cas, on verra bien, mais c'est pas le même genre, mais ça, c'est vraiment plus une curiosité. Mais je sais que Nikon a sorti des appareils à base Android. C'est le moteur, comment je pourrais dire, l'OS est d'Android là-dessus. Ça m'intrigue énormément qu'est-ce que ça peut avoir l'air, comment ça fonctionne, etc. Fait que non, je sais que c'est pas rien, c'est pas un appareil haut de gamme ou rien de ça, mais ça m'intrigue de voir les menus, comment que ça fonctionne, etc.
Il y a Samsung aussi, il me semble.
Ouais, c'est possible. C'est possible. Ouais. Je pense que c'est Nikon qui ont été les premiers à le faire, là, okay. Mais j'avoue que ça avec, j'irais pas mettre la main là-dessus. Ouais. Juste par
sauf
peu
que
curiosité.
Android 2.3, c'est quand même une vieille version du système d'exploitation.
Ouais, donc, je sais bien, mais je veux
mais
dire,
ça peut être intéressant.
Le côté touch, là, qu'on peut avoir le touchscreen, etc. Même si c'est pas super développé, reste quand même qu'il y a un potentiel intéressant. Ça n'a pas besoin d'être. Tu sais, je disais justement, c'est comme Fuji, leur défaut, c'est que leurs menus sont pas super bien organisés. Fait que il y a un potentiel à faire un menu très bien organisé, à mettre peut-être même, je sais pas si on peut mettre des applications dessus ou pas.
Ouais.
C'est intriguant, tu sais. La prémisse est très intrigante. J'aimerais ça l'essayer. Fait que ça en a un autre aussi qui pourrait. 2013, ça pourrait être le fun, là.
Parfait. Toi, Eric, de ton côté?
Non, mais j'ai pas regardé.
T'as pas regardé? Bon. Tant pis pour toi.
Ben
on va passer à moi, finalement.
Oui, ben oui. À vous, Stéphane.
toi aussi, tu participes à ce podcast-là?
Ben oui, ça m'arrive. Oui, moi, j'ai regardé. Ben, en fait, depuis la semaine dernière, j'ai le Sony NEX6 entre les mains. Et
non, là, c'est moi qui l'ai.
Ah, là, c'est François qui l'a entre les mains. Mais pour le rapport qualité-prix, je vous dirais que c'est pas mal l'appareil qui m'a le plus tapé dans l'œil en 2012. Et pourtant, c'est tout récent. Mais je vais expérimenter un peu plus avec l'appareil, puis je pourrais faire une critique plus tard. Mais à date, c'est un petit coup de cœur pour 2012. Là, il y a un petit défaut qui m'agace, mais c'est sûrement quelque chose que j'ai pas encore trouvé dans les menus. Là, donc... Je vous en reparlerai plus en détail.
Ça va être un bon choix, j'avoue. Là, très bon choix.
Et puis, pour 2013, à date, moi aussi, il y aurait la 7D Mark II. Parce qu'en fait, si j'ai pas opté pour la 7D quand j'ai acheté mon 60D, finalement, c'était à cause du format de carte, entre autres. Il y avait deux, trois autres petits trucs. Mais s'il y avait eu deux cartes, dont SD et Compact Flash, j'aurais fait le saut probablement, puis je me serais acheté une Compact Flash ou deux pour pouvoir soit enregistrer les photos en backup ou encore sur une carte le RAW puis sur une carte le JPEG ou peu importe.
C'est quelque chose qu'on peut faire, ça?
Ben, je sais pas si sur la 7D Mark II on va pouvoir le faire parce que c'est encore au stade de rumeur, mais sur les appareils Nikon, on peut le faire, certains appareils Nikon.
Ouais.
Et ça, je trouve ça drôlement intéressant.
Ben oui.
Sinon, ben évidemment, si je réussis à débloquer un peu plus de budget, peut-être la 5D Mark III, toujours dans le Canon. Mais là, on parle, c'est ça, d'une bête, là. C'est...
Ben, au moins l'essayer serait
oui,
quand même agréable. Encore une fois, un contact de Canon, Nikon, on les prend tous, hein, vous savez.
Ouais, ouais.
On n'est pas regardant.
Donc, c'est pas mal ça. Puis, ben, en fait, parlant de rumeurs aussi, il y a une rumeur comme quoi le 60D serait remplacé par le 70D en 2013, parce que ça fait aussi quelques années que le 60D est sorti. Et puis là, il semblerait que le temps serait arrivé pour un nouveau modèle. Mais j'ai pas trouvé vraiment de caractéristiques ou de rumeurs aussi solides que, disons, pour la 7D Mark II là, pour le moment. Mais on va vous revenir là-dessus. On va garder un œil ouvert. Maintenant, je vais dévoiler les résultats du premier sondage. En fait, il n'y a rien de secret parce que ces résultats-là sont disponibles sur le blog, sur objectifnumérique.com. Mais on a quand même eu 57 votes pour notre premier sondage, à savoir quel est le type d'appareil que vous utilisez, donc soit un réflexe, un compact, un appareil, un téléphone portable, peu importe. Et bien le réflexe l'emporte haut la main pour le moment avec 72% des votes. Et
Quand même.
Oui, oui. Donc,
je suis un peu surpris pour être honnête, mais c'est bien.
Ben c'est bien. Mais on parle beaucoup d'appareils réflexes aussi, donc c'est intéressant de savoir qu'on a beaucoup d'auditeurs avec des réflexes. Et puis la plupart des autres catégories, on retrouve environ 5 à 7% des résultats. Donc c'est assez constant dans toutes les autres catégories. Si jamais vous n'avez pas répondu encore au sondage, venez le faire, venez partager avec nous aussi dans les commentaires votre non seulement la catégorie de votre appareil, mais si vous voulez nous faire part de la marque, du modèle et peut-être même de votre prochain appareil, qu'est-ce que vous aimeriez... acheter, vous procurer en 2013, ça serait intéressant. Et d'ailleurs, ben, on va aller un petit peu plus loin avec notre deuxième sondage qui va être lancé au moment de la diffusion de cet épisode. Donc, dès maintenant, vous pouvez aller voter. En fait, la question, quelle est votre marque d'appareil photo préférée? Alors, évidemment, on se doute que ça va être la marque de l'appareil que vous utilisez, mais si jamais il y a un appareil que vous... Vous lorgnez depuis un certain temps.
Comme Leica.
Comme Leica.
Encore une fois, je dirais pas non. L'ennui serait de trouver les fonds pour l'acheter. Je sais pas si vous avez vu les prix des appareils Leica. Là. C'est 10 000 $, 20 000 $. C'est très cher.
Ça peut être ta marque préférée de, t'sais, par les appareils qui sont produits, par la qualité, par ci, par ça.
Je dirais pas ça tant que j'en aurais pas une des mains.
C'est ça. Donc, en tout cas, on vous invite à aller répondre et puis on va voir. De toute façon, pour ceux qui répondent, l'appareil, la marque d'appareil qu'ils utilisent, bien, on va voir justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'auditeurs avec un appareil Nikon, avec un Canon,
ouais,
Pentax?
Je prédis un petit débat
Canon-Nikon.
Canon-Nikon.
Non, mais d'ailleurs, en France, ben, ils trouvent ça drôle qu'on prononce Canon en anglais et Nikon en français.
Ah oui.
Donc, qu'on ne dit pas Canon et Nikon.
Alors qu'on
Canon
dit Boston et eux Boston.
Oui, c'est ça. Mais c'est les particularités de la langue, que voulez-vous.
Et... Salut!
C'est très simple. Je vais vous dire, pour moi, en tout cas, vraiment canon, là, non, ça me fait penser au canon, ça marche pas dans ma tête. Au moins, Nikon, c'est un mot qui existe pas, fait que c'est correct.
Ben
là.
Moi, c'est ma théorie là-dessus, c'est que parce que Nikon n'existe pas, parce que puis canon a un équivalent, donc, et on dit pas Nikon, tout simplement, parce que...
Ça sonne bien. ça sonne bien à l'oreille, ouais, c'est vraiment juste ça. Ouais, alors,
alors voilà, messieurs, c'est maintenant l'heure du débat. La question qui tue... Est-ce qu'on devrait opter pour un meilleur boîtier ou un meilleur objectif? Donc, la question est lancée. Je crois que...
Meilleur objectif. Gens... Rien d'autre à dire.
Meilleur objectif pour Christian.
Idem.
François
idem,
aussi.
Idem, oui, oui.
OK. Et vous avez quoi comme argument pour...
Il faut donner des arguments maintenant?
Ben, absolument.
C'est parce que je pense sinon, que toi, pas... t'es pas du même avis, c'est juste pour...
Ben, en fait, je suis pas entièrement du même avis, mais tout simplement pour la raison... Ben, la raison pour laquelle moi je pense que les deux sont aussi importants, c'est que souvent on va vouloir changer d'objectif pour avoir plus de caractéristiques, pour avoir peut-être des améliorations au niveau de la sensibilité ISO, pour avoir peu importe. J'ai l'impression que les deux forment un tout, puis oui, même si on s'équipe en super bons objectifs, à un moment donné, on va se sentir limité malgré tout, parce que la technologie avance, puis nous, on va finir par exploiter, ben, si on en fait le moindrement, évidemment, de la photo, mais on va finir par arriver aux capacités de l'appareil, puis là, on a envie de changer. Pourtant, si on peut s'acheter des nouveaux objectifs, on peut avoir un meilleur piqué, on peut avoir... une meilleure ouverture ou peu importe, mais on change quand même de boîtier.
Ouais,
pourquoi? Parce que c'est important aussi.
Non, mais t'as pas peur. Regarde, je te le donne en partie, mais regarde, c'est parce que tout est relatif de où qu'on commence.
Oui, oui.
Si on commence, moi, je préfère avoir un objectif un petit peu mieux avec une moins bonne caméra que l'inverse.
Mm-hmm.
Parce que le problème que t'as, puis moi, je l'ai vécu, où ce que avec la 7D, l'objectif qui venait avec, le 18-135, moi, là, j'étais très, très, très insatisfait de cet objectif-là.
Mm-hmm.
Je trouvais que il était pas assez, pas clair, sharp.
Piqué. Il y avait piqué. Pas assez de piqué dedans.
Exactement. Je trouvais un manque de détails assez incroyable. J'aimais pas le fait que, justement, l'ouverture qui est variable, ouais. Beaucoup de points comme ça, la robustesse. Tu le descends, puis il s'ouvre tout seul. Tu sais, c'est toutes des affaires comme ça qui rentrent en jeu aussi à un certain moment donné. Alors, si tu me dis entre les deux, avoir su, j'aurais changé beaucoup de ma façon de voir maintenant que je le sais.
Mm-hmm.
J'ai même conseillé à du monde, regarde, c'est parce qu'en général, les appareils même de base ont plus qu'assez de fonctionnalités qui sont correctes. Le principal problème, je trouve, moi, dans les appareils de base, c'est surtout quand on arrive pour l'ISO. C'est là que les capacités sont moins grandes.
Mm-hmm.
Si on prend des photos de soir, de nuit, etc., là, vous n'avez pas le choix.
Mm-hmm.
Ça prend un bon appareil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le reste, là, vraiment, là, c'est quoi que vous allez avoir besoin réellement, à part peut-être, mettons, des photos de sport, parce qu'on a besoin de plus d'images.
Un mode rafale.
Mais, OK, mettons, mode rafale, puis une capacité en basse luminosité. Ça va être quoi le reste?
Il n'y a rien de vrai. Passer un plein capteur. Ouais,
non, mais dans le sens que... Les limitations qu'un appareil de base va avoir versus un autre, il n'y en aura pas tant que ça. Là. Je veux dire, pas, non. Ça sera pas visible à ce point-là.
En fait, ce que je pense, c'est que ça va en escalier, justement. On s'achète un boîtier au départ. Ensuite, on va vouloir améliorer ses objectifs. Ensuite, on va vouloir améliorer son boîtier. Puis là, si on passe à ce moment-là un plein capteur, là, on doit retourner chercher des objectifs pour...
Si on a pris des bons objectifs, si on a prévu puis on a acheté des bons objectifs en partant, exactement. On n'a pas besoin.
Non, c'est mais il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ce. C'est même plus un détail, là, c'est un fait important. Fait. Moi, en ce moment, j'hésite, je ne m'achète pas de nouveaux objectifs parce que je ne sais pas ce que je vais faire pour mon prochain boîtier. Si je passe au capteur plein format, ça me prend des objectifs plein format. Donc là, en ce moment, j'ai ma Sigma 1750 2.8 qui n'est pas plein format. Et là, j'aimerais ça m'en acheter un autre. Là, j'hésite. Parce que si je veux m'en acheter un bon objectif, ça coûte plus cher. Mais là, il faut que je sois sûr de mon coût. Est-ce que je vais vraiment passer au plein capteur après? Puis, en tout cas,
c'est sûr.
Je suis dans un dilemme.
Toi, Eric?
Ben, moi aussi, c'est les objectifs qui sont le plus important. Puis, je pense que c'est un investissement quand on achète une bonne lentille. Parce que la lentille va pouvoir te suivre sur plusieurs boîtiers, sur plusieurs années, tu sais, il n'y aura pas de problème, ça t'offre. Puis même si, justement, t'as un objectif qui va seulement sur les capteurs reniers, mm-hmm. quand tu vas arriver pour la revendre, elle va encore avoir une bonne valeur.
Oui, aussi.
C'est de la
contrairement à un boîtier. Mm-hmm. Donc, tu peux revendre facilement une bonne lentille sans presque de perte, là. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'investir sur les lentilles, puis après ça, le boîtier.
Mm-hmm.
Mais
bon, alors, à votre tour, chers auditeurs, si vous avez des arguments ou vous voulez nous faire part aussi de votre avis sur la question, bien, si vous voulez publier un commentaire dans les notes d'épisode, ça va nous faire plaisir de les lire et d'y répondre.
Fait que dans le fond, en réalité, ça veut dire aussi une chose, évaluer vos besoins.
Absolument.
Comme je dis depuis le début.
Oui.
Ah, comme c'est bien dit.
Non, mais... Je veux dire, moi, j'aimerais ça avoir une caméra pour mes spectacles. Pour moi, ce qui est important, c'est quelque chose qui, en basse luminosité, a une capacité assez importante, qui est, tu sais, je veux dire, une qualité visuelle très bonne, un ISO respectable, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que tu peux pas traîner de DSLR, tu peux pas traîner un objectif très long, etc. Fait que si c'est un point and click, ben, ça prend quelque chose de qualité. Mm-hmm. Fait que comme je dis, tout dépend de tes besoins.
Oui.
Regardez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, puis faites vos recherches par rapport à ça. C'est toujours la meilleure chose. Mais malgré ça, là, objectif en partant.
Mmh. Excellent. Et Eric, finalement, toi, t'es venu... en fait, je t'ai invité parce que je trouvais ton projet de tutoriel vidéo intéressant. Puis j'aimerais ça juste que tu nous... Justement, si tu nous disais au début de l'épisode... que ton idée est venue, en fait, à cause du groupe Facebook de photographes amateurs et tout ça. Mais c'est ça, qu'est-ce qui a vraiment fait déclencher ça, qui a dit « bon, ben, ça y est, je vais faire des vidéos », puis ça a été quoi l'élément déclencheur, puis qu'est-ce que tu as couvert à date comme sujet aussi, là?
L'élément déclencheur, il n'y avait pas grand-chose, je veux dire.
Ça te prenait pas grand-chose.
Mais en fait, j'ai déjà essayé sur un blog, j'ai essayé, je sais pas, des choses différentes, puis là, je dis « bon, j'étais dans mon sous-sol, puis j'ai décidé que j'allais essayer ça. Puis rien de vraiment super programmé d'avance, puis avec plein de projets. Non, j'ai dit, let's go, je vais prendre la caméra, puis on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne.
Mm-hmm.
Donc, c'est ça. Puis pour ce que j'ai fait, ben présentement, c'est surtout des tutoriels sur Lightroom. Donc, des sujets comme des affaires simples comme le redressement ou l'ajustement de... la netteté ou des choses comme ça.
L'exposition aussi, je pense.
L'exposition.
On t'expliquait l'espèce d'histogramme, là, dans
c'est ça. Il y a du monde qui... L'histogramme, il trouvait ça bien mignon, mais il savait pas à quoi ça servait. Donc, mm-hmm. J'ai essayé de l'expliquer un peu. La différence entre JPEG puis RAW. Il y a du monde qui disent, JPEG, c'est parfait. C'est parfait tant que tu fais rien avec ta photo, là. Si tu veux la développer, t'es obligé de passer par RAW presque, là. Donc... c'est ça. Puis, dans le futur, je sais pas exactement où est-ce que ça s'en va non plus. C'est un petit projet personnel, puis mm-hmm. ça avance comme ça. Puis, j'espère avoir d'autres sujets intéressants.
Oui, oui. Souvent, ça peut aller loin. Quand t'as pas de pression, tu vas à ton rythme. Puis la réponse est là aussi. Je pense que les gens semblent apprécier pas mal tes capsules.
Aussi. Oui, ça a l'air à être à répondre à un certain besoin. En tout cas, au moins pour ce petit groupe-là. Je les mets sur YouTube. Puis là, ben, je vois qu'il y a quand même quelques personnes par des recherches sur YouTube qui finissent par tomber sur mes vidéos. Puis ils ont l'air de trouver ça aussi intéressant. Donc,
C'est bon que ça soit sur YouTube parce que tu vas voir qu'après que notre balado de diffusion soit passé, tu vas avoir un boost incroyable d'auditeurs. Là. Ah, si c'était juste... sur un serveur personnel, ça te coûterait cher.
Oui, effectivement. que...
Toujours aussi modeste.
Bon, ben d'ailleurs, justement, t'as une chaîne YouTube ou...
Oui, c'est une chaîne YouTube. J'ai appelé ça « Le fou de la photo ». Comme ça. comme j'ai dit, je l'ai parti un peu une journée comme ça. Puis j'ai dit, ah, quel nom. Bah, je suis vraiment passionné de la photo. Je suis donc un peu fou de la photo. Fait que j'ai appelé ça comme ça. Puis ben, sur la chaîne YouTube, c'est youtube.com/le fou de la photo.
Parfait.
Puis on arrive sur la chaîne. J'ai aussi fait une petite page Facebook. Là, s'il y a du monde qui sont plus. Ils suivent plus souvent sur Facebook. C'est la même chose, là, je pense. Facebook.com/le fou de la photo, ça fonctionne donc.
Parfait. Puis est-ce que ton blog photo, justement, est-ce que tu continues à l'alimenter un peu?
Oh mon Dieu. Ben, c'est justement ça. C'était un autre projet que j'avais commencé. Puis non, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas alimenté. Okay. Peut-être que je vais recommencer, je sais pas là.
Mm-hmm. Parfait. Bon, ben si tu veux, on pourra. Si ça t'intéresse, on pourra aller mettre l'adresse dans les notes d'épisode. Puis sinon, c'est ça. Est-ce que. Il y a des endroits où on peut te suivre. Je pense, t'es sur Twitter, contrairement à François.
Je suis sur Twitter, mais pas tellement plus que François, dans le fond. Là.
Bon, hey, il y a quelqu'un de mon bord.
Je suis sur Twitter parce que j'aime ça tout essayer, donc je suis là. Je fais quelques tweets par-ci, par-là. Je réponds à du monde, mais je suis vraiment plus sur Facebook que sur Twitter. Oh, j'ai pas encore... trouver ce qui m'accrochait à Twitter. Donc,
ouais. C'est déjà un progrès quand même par rapport à François.
Ouais. C'est un premier pas.
Un jour, les amis, un jour.
Sur ton super nouveau téléphone.
Vous me donnerez raison.
Excellent. Ben écoute, merci d'avoir été avec nous.
Ben ça fait plaisir.
Puis merci aux auditeurs de nous avoir écoutés encore une fois pour ce 13e épisode. Merci François.
Hey, merci Stéphane.
Merci Christian.
Merci Stéphane.
Et comme d'habitude, ben, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast@commercialobjectifnumérique.com. Il y a toujours notre compte Twitter, justement, que François n'a jamais suivi, qui est au numérique. Et on a la page Facebook et Google Plus, François. Je sais ton cas.
Là, il ne faut pas charrier.
Faut pas pousser. Non, faut pas charrier.
Non, Google Plus est un peu extrême. Il y a vraiment encore moins de
monde. Il y a trop de photographes là-dessus. Là, je pense que...
Mais c'est ça, les pages Facebook et Google Plus, vous cherchez Objectif Numérique et vous allez nous trouver très facilement. Sur ce, merci encore et à la prochaine.
Doop-a-doop.